To get down.
I announce my candidacy for president of the United
States. Don't you someday want to see a woman president of the United States of America?
I believe in you.
Un jour dans le monde. Sur France Inter.
Allez, il est bientôt 18h50 et comme tous les lundis sur France Inter, c'est notre hebdo de la campagne présidentielle américaine. Bonsoir Frédéric Carbone.
Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Washington. Alors la lessiveuse des primaires continue à faire son œuvre, Frédéric. Et des dégâts, dernière victime en date. Jeb Bush, il a jeté l'éponge.
Oui, après la primaire de Caroline du Sud. Et probablement ce qui s'est passé avec lui sera enseigné plus tard comme le modèle d'une campagne ratée, d'une candidature à contre-temps. Et l'exemple aussi du fait que non, tout ne s'achète pas aux États-Unis, puisque voilà le prétendant qui a reçu le plus d'argent, 150 millions de dollars environ, et qui était le plus connu au début, hormis peut-être Trump, et qui abandonne très tôt dans la course après seulement 3 primaires. D'ailleurs, Jeb Bush, il a senti très vite qu'il n'était pas dans l'air du temps. Souvenez-vous ce qu'il disait à l'automne dernier, c'était presque une bande-annonce de son retrait.
Si cette élection se résume à une bagarre totalement stérile, j'ai pas ma place. J'ai beaucoup mieux à faire qu'être assis, malheureux, entouré de gens qui me diabolisent et être invité à les diaboliser aussi. C'est de la blague, élisez Trump si c'est ça que vous voulez.
Alors, pendant des semaines, Jeb Bush a tout essayé, ignorer Trump, puis au contraire, être son détracteur le plus virulent, se détacher de l'emprise familiale, puis là aussi à l'inverse, faire campagne ces jours derniers avec sa mère et son frère. Bref, les électeurs républicains ne voulaient pas d'un troisième Bush, et pas non plus de ce candidat conservateur mais raisonnable, et en annonçant son retrait, il n'a cité aucun de ses rivaux, mais le portrait qu'il dresse du président idéal, c'est purement l'inverse de Donald Trump.
Notre pays mérite un président pour tous. La présidence est plus grande que n'importe qui, et en particulier n'importe quel candidat. Je crois vraiment que les Américains doivent confier cette mission à quelqu'un qui comprend qu'il est là pour servir, pas pour être le maître. Quelqu'un dévoué à cette tâche avec honneur et décence.
Alors Frédéric, avec l'abandon de Jeb Bush, est-ce qu'un espace s'ouvre pour un autre candidat républicain, candidat capable de rivaliser avec Donald Trump ?
C'est évidemment la grande question. Vous avez Ted Cruz, qui affirme être le seul à pouvoir battre Trump. Il l'a déjà fait dans l'Iowa, mais il est sur une ligne ultra-conservatrice, donc pas vraiment un homme de rassemblement. Et vous avez Marco Rubio, qui lui dit, avec le retrait de Bush, la vraie campagne commence, fini ce trop-plein de candidats, et je suis celui qui peut unifier les républicains et battre Hillary Clinton. Le parti va-t-il donc se ranger derrière lui? Et cela d'ailleurs suffira-t-il? En Caroline du Sud, Rubio était soutenu déjà par tous les dirigeants influents. Résultat, un peu plus de 20% des voix, pas plus. Et puis, Donald Trump, eh ben lui, commence à envoyer des avertissements à tous les responsables républicains.
Je suis un outsider et j'en suis fier. Mais ne l'oubliez pas, j'ai fait totalement partie de l'establishment. J'ai financé les campagnes électorales, j'ai donné de l'argent à tout le monde. Parce qu'en tant que businessman, c'était ce qu'il fallait faire. Mais le 16 juin dernier, je suis devenu un outsider. Et là, tout cet establishment s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas supposé faire cela, ce n'est pas dans nos plans.
Alors Trump sait en tout cas que le temps va jouer pour lui. Après le Super Tuesday mardi prochain, on rentre dans une phase des primaires à la stricte logique majoritaire. Ce qui veut dire que le gagnant remportera tous les sièges de délégués. Et ça veut dire que s'il continue à y avoir une dispersion des voix, le socle dur, les 30% d'électeurs en faveur de Donald Trump, peuvent lui garantir une majorité absolue. Vous le voyez, on est presque au niveau de l'état d'urgence chez les républicains.
Oui, alors avant le Super Tuesday, il y aura le week-end prochain les primaires en Caroline du Sud. Les démocrates, Frédéric, vont se battre pour le vote des Africains-Américains. Est-ce que c'est un électorat acquis à Hillary Clinton ?
En tout cas, Nicolas, c'est là-dessus, sur le vote noir, qu'Hillary Clinton compte pour faire refluer la vague Sanders. Dans le Nevada, samedi dernier, elle a pu compter sur les trois quarts des voix de cette communauté. Et effectivement, en Caroline du Sud, puis dans de nombreux États du Super Tuesday, les Africains-Américains représentent la majorité des électeurs démocrates. Le message d'Hillary Clinton, c'est donc Bernie Sanders ne se préoccupe que de son combat contre Wall Street, contre la grande finance. Moi, je prends en compte, on l'écoute, toute la diversité de l'Amérique.
Je mène une campagne pour briser toutes les barrières. Si vous entendez les voix qui s'élèvent à Flint ou à Ferguson, il est évident qu'il y a tellement de choses à faire. La vérité, c'est que nous ne sommes pas un pays avec un seul problème. Nous avons besoin de plus qu'une loi contre les grandes banques. La classe moyenne doit retrouver sa place.
Alors ce message d'Hillary Clinton, il a une certaine efficacité, mais avec le vote noir, on risque d'avoir un peu le même genre de fracture générationnelle que depuis le début de cette campagne démocrate. Vous savez que les jeunes votent massivement pour Bernie Sanders depuis le début. Les institutions africaines-américaines, les élus noirs du Congrès, les figures historiques comme John Lewis, le compagnon de route de Martin Luther King, sont totalement derrière Hillary Clinton, au nom de ses 40 ans de combat pour les droits civiques. En revanche, des activistes plus jeunes, notamment l'écrivain que vous avez reçu récemment, Nicolas Ta-Nehisi Coates, eux, ils sont derrière Bernie Sanders. Et ils disent, n'oubliez pas les lois votées sur Bill Clinton dans les années 90 et qui ont ouvert la voie à une forme de répression policière dont les jeunes noirs sont les premières victimes. Ça devrait toutefois pas compenser le déficit de notoriété réelle de Bernie Sanders dans cette communauté.
Allez Frédéric, comme tous les lundis, on termine avec l'info inutile de la semaine. Faites vos jeux.
Ouais, on reste chez les démocrates, où le dernier scrutin dans le Nevada a encore été très serré. Vous vous souvenez de l'Iowa où on avait tiré au dé dans certains caucus pour départager les partisans des deux candidats? Eh bien là, au pays des casinos, on a sorti les cartes dans un cas d'égalité parfaite. Le camp Clinton a eu un as et a été déclaré vainqueur. Quand on votera dans le Wyoming, peut-être qu'il faudra y envisager un rodéo et celui qui restera le plus longtemps sur le cheval sera le gagnant. On va bien voir.
Merci Frédéric Carbon.